Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et je suis ravi de lancer officiellement la 8e saison de l'émission, ici donc à l'Hippodrome de Longchamp, où s'est tenue cette semaine la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, organisée par le MEDEF. Un des vice-présidents du MEDEF, Fabrice Le Sachet, sera d'ailleurs mon invité dans un instant. Nous parlerons bien sûr des atouts de la France et des entreprises françaises, mais aussi des inquiétudes des patrons sur plusieurs sujets, notamment, vous le savez, celui de la fiscalité. On parlera également de l'un des succès de l'été, les glaces Amorino, avec Paolo Benassi, l'un des cofondateurs de l'entreprise. Il est en plateau avec nous et on parlera donc de ce succès qui reprend tous les codes de l'Italie, mais qui est bel et bien une PME 100% française, créée en 2002. Et puis vous le savez, dans cette émission, eh bien on aime et on soutient l'industrie française. On parlera donc aujourd'hui de Keginer, un groupe breton spécialisé dans les matériaux de construction et qui fête cette année ses 75 ans. Je recevrai Clément Keginer qui incarne la troisième génération de cette ETI familiale. Il nous parlera bien sûr de son entreprise et de ses grandes ambitions. On commence donc avec vous, Fabrice Le Sachet, bonjour.
Bonjour.
C'est la 8e saison de la France à tout pour réussir. Chaque année, vous faites l'ouverture avec nous et j'en suis ravi. Vous êtes
Merci de m'accueillir à chaque fois.
Absolument, vous êtes le vice-président du MEDEF. Vous êtes ceux qui sont restés dans l'équipe du nouveau président Patrick Martin. Vous êtes en charge de l'Europe, on en parlera dans quelques instants. Mais tout d'abord, en cette rentrée 2023, on a beaucoup entendu l'inquiétude des patrons français. Quel est l'état d'esprit de ces patrons français en cette rentrée ?
Il y a une inquiétude parce que la conjoncture quand même est difficile. Il y a un ralentissement en Chine, il y a des questions de pouvoir d'achat en Europe, il y a des questions de subventions aux États-Unis, l'industrie américaine, donc des problèmes de compétition. Donc c'est vrai qu'on est dans un moment où on se demande, il y a eu 6-7 années assez puissantes, assez fortes, mis à part le Covid, mais assez puissantes de l'économie française, où on a performé, on a fait mieux que de façon cumulée, hein, en taux de croissance que nos homologues allemands, italiens, on a créé beaucoup d'emplois, 2 millions en solde net. On a eu des bons résultats sur la formation, sur l'apprentissage. On forme 1 million de jeunes par an en apprentissage au lieu de 300 000 avant. Donc il y a eu beaucoup de choses. Et là, c'est vrai qu'on sent poindre des difficultés, un ralentissement. Les taux d'intérêt aussi pèsent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'activité. Avec des secteurs comme la construction où c'est difficile, la chimie, l'industrie, les carnets de commandes qui étaient plutôt pleins commencent aussi un petit peu à faiblir dans certains secteurs. Et puis les services qui sont des indicateurs avancés comme la propreté ou qui commencent à voir l'événementiel peut-être un petit peu moins d'activité. Donc effectivement, on dit que c'est pas le moment de ralentir pour le gouvernement, notamment sur les baisses d'impôts qui ont été promis et qui sont dues.
Et votre état d'esprit, donc on a vu donc Elisabeth Borne, elle était là lundi, elle a vraiment parlé des impôts de production, mais de plein de choses. Elle a rappelé ce qui est important, qu'elle est pro-business. Est-ce que votre inquiétude se focalise quand même sur la fiscalité et cette fameuse CV à eux, qui devait être supprimé, qui le sera, mais un peu plus tard que prévu. Vous êtes en colère contre ce report ?
Colère, peut-être que le mot est fort. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le pays. Il y a eu quand même une baisse de l'impôt sur les sociétés. Il y a eu le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax sur le capital. Il y a eu des réformes sur les retraites, sur l'assurance chômage. Donc, il y a eu des choses sur l'apprentissage. Il y a eu des choses qui ont été faites. Donc, non, tout n'est pas à jeter. Ce qu'on dit simplement, il y a eu aussi une baisse des impôts de production. Ce qu'on dit simplement, c'est ce qui a fonctionné en matière de politique pro-business ou politique de l'offre, ça rattrape un énorme retard. Parce que même quand on prend en compte tout ce qui a été fait, les entreprises françaises demeurent dans les pays industrialisés, dans les pays OCDE, parmi les plus prélevés. Quand on prend la différence avec les entreprises allemandes, c'est un exemple tarte à la crème, mais quand même, on se compare aussi à ce qui est,
comparable.
À ce qui est comparable. Le taux de marge des entreprises, c'est 6 à 7 points de différence. Quand on regarde le commerce extérieur, il y a des difficultés. Vous allez en parler avec Paolo dans un instant. Quand on crée sa boîte en France, moi aussi j'ai créé mon entreprise, il y a encore des difficultés sur les salaires. salaires élevés, les charges, le coût du travail est extrêmement élevé. Et si on veut avoir un pays qui finance son modèle social, il faut sortir de l'économie low cost et il faut aller sur de l'emploi notamment qualifié, il faut aller sur des secteurs aussi porteurs, des secteurs d'avenir, l'aéronautique, l'énergie, il y a plein d'investissements à faire et donc et pour ça on a besoin de marge.
Et quand on vous dit qu'il faut faire des choix, qu'il y a des choix à faire pour entre autres revenir à un meilleur équilibre budgétaire, quand on dit que ça doit concerner les particuliers mais aussi les entreprises, que chacun doit prendre sa part à l'effort, qu'est-ce que vous répondez à cette part de l'effort?
On a quand même l'impression qu'à chaque fois on nous fait des cadeaux et qu'on est là à faire l'aumône. Je suis désolé, la baisse de l'impôt sur les sociétés, le ministre l'a rappelé ce matin,
de 31 à 25%.
On est passé de 30 milliards de rendement fiscal à 60 milliards.
Et c'est parce qu'on
donc
a baissé le pourcentage.
Donc ça veut dire que baisser les impôts, ça ramène plus d'argent parce que ça stimule l'activité. Évidemment, dans une certaine mesure. En tout cas, ça s'est vérifié dans les années précédentes. Et donc, nous, on pense au contraire qu'il faut accélérer. Vous savez, la compétition mondiale, elle ne fait pas de pause. Hein. Nos amis allemands, pendant l'été, il y a eu plus de 10 milliards d'euros de subventions sur les microprocesseurs. Nos amis américains, c'est gigantesque. Ils sont en train d'investir par subvention, au-delà même de l'IRA. Ouais. Il y a des subventions partout pour la décarbonation, pour la transition du modèle américain vers la transition écologique. Et quand on regarde la Chine, c'est pas mieux. Même si ça ralentit, ils gavent leur économie de subventions. Donc il faut qu'on prenne garde de pas rétrograder en division 2. Et pour ça, on a besoin d'une économie compétitive. On en est loin. Juste pour finir, vous parlez des impôts de production. Oui, on baisse les impôts de production. Mais avant, ils ont monté. Ils sont passés de 50 milliards à 75. Donc quand vous rend 10 milliards, on a l'impression qu'on a fait un truc incroyable. Non, finalement on reprend le chemin du bon sens, oui.
Et la bonne taille pour lutter contre les Chinois, contre les Américains, c'est la taille européenne. Alors vous êtes en charge, vous êtes le vice-président en charge de l'Europe. Est-ce que la réponse de nos entreprises, elle doit être franco-française ou est-ce qu'elle doit être franco-européenne?
Bon, on pourrait en parler longtemps, mais c'est évident qu'on n'a pas la France seule, un marché domestique de taille comparable aux États-Unis, à la Chine, qui eux ont la capacité de développer des innovations, de les faire financer sur leur marché localement, etc. Donc on a besoin évidemment de construire notamment l'union des capitaux. Hein. Le ministre en parlait ce matin. Aujourd'hui, quand vous avez une boîte qui fait des levées de fonds au-delà de 50 millions d'euros, 100 millions d'euros dans la tech, bien souvent, malheureusement, on a eu quantité d'exemples. Ils sont obligés de partir aux États-Unis, d'avoir des fonds étrangers. Alors c'est pas mal d'avoir des fonds étrangers. Ce qui est dommage, c'est de perdre des sièges sociaux parce qu'on investit sur ces scientifiques. On investit dans cette recherche. Le but, c'est quand même de garder de l'activité dans notre pays et aussi d'avoir une forme d'indépendance, osons le mot, de souveraineté sur des secteurs très importants, stratégiques, la santé, l'alimentaire, l'énergie, c'est vital.
Et je vous trouve plus virulent peut-être contre le gouvernement que vous l'étiez il y a quelques années, quand on se voyait donc à chaque rentrée. Là, je vous trouve, je reprends ce mot, plus en colère, plus virulent. Est-ce que vraiment ils ne font pas assez? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont en train de prendre un virage qui n'est pas le bon, selon vous, selon le vice-président que vous êtes du MEDEF?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la compétition mondiale est acharnée. Et donc, nous, on n'est pas des pousses au crime, d'une certaine façon. Ce qu'on souhaite, c'est la réussite du pays. Et notre job, c'est d'investir. On ne peut pas investir sur tous les sujets sur lesquels on nous interpelle, la RSE, l'inclusion, les salaires. On a augmenté les salaires en moyenne de 4,5% et avec les primes, partage de la valeur, etc., à plus de 5% cette année. Avant le Covid, on avait augmenté les salaires à des niveaux plus rapides que l'inflation. Donc on ne peut pas répondre à toutes ces injonctions, émettre moins de CO2. Vous allez en parler avec peut-être votre invité dans un instant. Mais le business, c'est énormément d'investissements. Si on n'a pas les moyens d'autofinancer ça, on ne va pas tout faire avec de la dette, surtout quand les taux sont élevés. Donc on a besoin de marge de manœuvre et on n'est pas dans une île tout seul. On est dans un monde ouvert où il y a de la compétition et d'ailleurs où certains ne respectent pas les règles et nous on appelle à se muscler au niveau européen, à arrêter cette naïveté.
Et de la loyauté et moins de naïveté. Absolument. Voilà. Vous parliez de votre voisin de droite. Bonjour Paolo Benassi.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes donc le cofondateur d'une marque que l'on connaît tous, je pense vraiment, et on en a beaucoup consommé pendant l'été, la marque Amorino. On va revenir sur votre parcours, sur votre modèle économique. D'abord, on est donc au tout début du mois de septembre, à la fin août. Quel a été le bilan de l'été? Est-ce que les chaleurs assez fortes et surtout ces dernières semaines ont été bénéfiques pour votre activité?
Mais la saison a été effectivement très, très satisfaisante. On a eu du beau temps et nos boutiques sont en progression. Donc aujourd'hui, par rapport à l'année 2022, qui était déjà une année très bonne, tous nos, les chiffres de nos boutiques sont en progression entre 8 à 10% selon les pays, selon la, la boutique. Donc, c'est une très belle saison pour Amorino cette année.
Donc, est-ce que vous diriez que vraiment, quand, quand il fait chaud, beaucoup se plaignent, beaucoup disent qu'on est dans le dérèglement climatique. Vous, c'est un facteur de croissance?
C'est un facteur qui incentive nos clients à rentrer dans nos boutiques, en sachant qu'il y a trop de chaleur, les gens ne bougent pas trop, donc il ne faut pas non plus exagérer.
Alors, combien de boutiques, vous nous parliez de plus 8 à 10% pour chacune de vos boutiques, combien de boutiques vous possédez, enfin vous avez sous franchise, on va parler de votre modèle économique, en France et dans les autres pays?
Donc aujourd'hui, Amorino compte environ 225 boutiques à ce jour, dont 105 en France et 110 à l'étranger, dans 17 pays différents.
Et à l'étranger, vous êtes en forte progression, je crois, actuellement au Moyen-Orient, avec une boutique qui a ouvert il y a quelques jours.
Tout à fait. On vient d'ouvrir une boutique à Kuwait City, dans un centre commercial. Et effectivement, le Moyen-Orient reste des pays à fort développement pour nous. On vient d'ouvrir aussi récemment l'Arabie Saoudite, dans ce sont des pays qui sont des forts consommateurs de glace. L'effet saisonnel, de saisonnalité est moins importante qu'en France. Donc effectivement, ce sont des pays sur lesquels on compte beaucoup pour notre développement futur.
Donc plus de 100 boutiques en France et dans d'autres pays. Les objectifs, d'ici, on est en 2023, d'ici 2025, est-ce que vous vous êtes fixé à un objectif de nouvelles boutiques?
Tout à fait. Nous, on s'était fixé un objectif de doubler nos points de vente, arriver à fin 2025, arriver à 400 boutiques. Donc cette année, on a ouvert déjà 20 boutiques. Il y en a encore 20 dans les tuyaux. Donc, pour cette année, on vise les 40 boutiques nouvelles.
Et l'essentiel, c'est sous le modèle de la franchise. Hein. C'est bien cela?
Nous, tout à fait. 90% sont des boutiques en franchise et 10% des boutiques en propre que nous avons à Paris et à Londres surtout.
Quel est le modèle économique, la relation avec vos franchisés sur le pourcentage, les royalties, etc. C'est quoi les droits d'entrée et ensuite de vie avec la marque Amorino?
Nous, on aime bien les choses simples. Donc, il y a juste un droit d'entrée pour l'accompagnement que nous donnons à nos franchisés. C'est un billet à environ de 30 000 euros. Et après, il n'y a pas de royalties. Donc aujourd'hui, on se rémunère sur la vente de nos produits parce que nous fabriquons nos glaces et nous leur vendons tous les produits qui sont proposés dans les boutiques à Amorino.
Parce que voilà, donc ce que l'on ne sait pas, c'est que vous avez tous les codes de l'Italie. Vous êtes vous-même italien avec votre cofondateur Cristiano Sereni. La marque, elle sent bon l'Italie, mais tout cela est fait en France.
Tout à fait, évidemment. Moi, je suis arrivé en France dans les années 2000. J'avais un autre parcours. Je me suis réinventer Glacier. Aujourd'hui, effectivement, on a un laboratoire de production qui se trouve à Orly,
en région parisienne,
et on fabrique tous nos glaces avec du lait français, de la crème, du beurre français, du sucre français, mais aussi on va chercher les ingrédients, là on pense que ce sont les meilleurs, comme les agrumes en Sicile, la noisette des Piémonts, donc on va sélectionner.
Les pistaches, ça vient d'où?
Les pistaches, ça vient de Sicile, mais ça vient plutôt du Moyen-Orient, effectivement, tous les ans, parce que la pistache Sicile est récoltée une fois tous les deux ans. Donc c'est un produit qui change tous les ans.
Et dans les goûts, j'imagine, dans les goûts des glaces, il y a des tendances. Quelles ont été les tendances de l'été 2023?
Ben, les parfums les plus vendus sont toujours les mêmes. C'est la vanille, nous on utilise la vanille Madagascar, c'est le chocolat, c'est la stracciatella. Et la pistache. Et dans les sorbets, il y a la mangue et la fraise, sont les parfums les plus vendus.
Votre chiffre d'affaires par rapport à tout le volume de chiffre d'affaires de la glace en France, de la glace aux particuliers, vous avez quel poids dans la distribution de glace en France?
Mais en fait, les glaces, il faut distinguer entre les glaces artisanales et les glaces industrielles. Dans notre secteur, ce sont les glaces artisanales vendues dans les boutiques. Nous restons quand même un petit acteur, même malgré nos boutiques. Et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires qui on vise pour la fin 2023 est autour des 120 millions d'euros de sell-out, donc le chiffre d'affaires de nos boutiques.
Un mot également, on en a parlé, vous en avez parlé de la saisonnalité. Vous êtes très dépendant quand même évidemment du beau temps et des chaleurs, vous l'avez dit, modérées. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un besoin de diversification? Est-ce que dans les boutiques à Amorino, on ne fait que de la glace? Est-ce que ce n'est pas le cas déjà? Et qu'est-ce que vous allez faire pour diversifier les choses?
Mais aujourd'hui, effectivement, à la base, on est glacier et on veut rester glacier parce que c'est un métier quand même important. Et les glaces sont vendues 12 mois par an. Donc, ils représentent quand même 80% du chiffre d'affaires de nos points de vente. Les 20% restants sont des produits annexes. On vend des produits comme les crêpes, les gaufres. On a toute une activité cafétéria, les cafés, les cappuccinos, les affogatos. Et pour l'hiver, on développe aussi une gamme de produits d'épicerie fine italienne, comme des petits chocolats, comme les gianduiotti, le panettone. Donc, on essaie de faire découvrir nos spécialités italiennes à tout le public, pas seulement français, mais aussi tous les étrangers qui se présentent dans nos boutiques.
Un mot de l'arrivée d'un nouveau directeur général qui vient, je crois, du groupe Häagen-Dazs, donc un géant du secteur. Pourquoi vous l'avez recruté? C'est quoi sa feuille de route? C'est quoi ses objectifs?
Ben, sa feuille de route, on l'a recruté pour ses qualités, pour son expérience, pas seulement dans le monde de la glace, mais aussi dans le retail, parce qu'aujourd'hui, on est fabricant des glaces, mais aussi de retailer. Donc, et lui, il avait l'expérience sur le retail. Et effectivement, on s'est fixé comme objectif avec lui de doubler notre parc de boutiques à 5 ans. Donc, aujourd'hui, on le challenge sur ses objectifs.
On est à la REF, on a entendu les récriminations, les souhaits des patrons, vous-même vous en êtes un. Est-ce que vous partagez les demandes que vient d'émettre Fabrice Le Sachet sur être un bon patron, c'est ça et voilà ce dont nous avons besoin pour nous développer?
Aujourd'hui, effectivement, je partage l'avis de Fabrice, en sachant qu'effectivement, on reconnaît que le gouvernement a fait beaucoup de choses récemment au niveau des impôts, mais les impôts, ça reste juste une partie. Aujourd'hui, on a besoin surtout... nos difficultés sont les aides pour les investissements. Nous, on reste aujourd'hui en PME, qu'on se finance à 100%. On n'a pas levé de fonds, c'est des fonds. On est accompagné par nos partenaires bancaires. Et surtout, on voudrait investir encore plus, mais on a besoin d'avoir des coups de pouce pour nous incentiver à investir encore plus. Investir, ça veut dire créer de l'emploi, créer de la richesse pour le pays. La deuxième difficulté, c'est les emplois. Aujourd'hui, on a vraiment du mal à recruter. Et c'est ça, sur ça qu'effectivement, à part la grosse tension sur les salaires, on aurait besoin effectivement aussi d'avoir une facilité d'emploi qui aujourd'hui n'est pas là.
Le message est lancé, le mot de la fin donc avec vous Fabrice, vous avez un entrepreneur voilà, qui vit vraiment mais comme vous parce que vous en êtes un.
Je le suis aussi.
Bien
hein.
Évidemment. Je
sais, on est optimiste.
Bien,
hein,
vous êtes un des porteurs.
On est dans notre rôle aussi.
Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Cette émission qui entame donc sa 8e saison s'appelle La France a tout pour réussir. Chaque année, je vous demande la même chose. Est-ce que vous croyez sincèrement au fond de vous-même que la France a tout pour réussir?
Totalement. Totalement convaincu et totalement engagé à ce que ça soit le cas.
Eh bien, très bien. Et on vous retrouvera donc avec plaisir en 2024.
Merci.
Merci à tous les deux d'avoir été les invités de cette émission. Donc, je disais la 8e saison. Je salue d'ailleurs une de vos compatriotes italiennes, Annalisa Capellini, qui a rejoint cette émission en tant que productrice. Et j'en suis absolument ravi. On va terminer cette première émission de la saison en parlant d'industrie, car on aime dire et prouver que l'industrie a des atouts pour réussir en France. Je vais donc rejoindre dans un autre endroit de l'hippodrome de Longchamp, Clément Keguiner, le président de l'entreprise du même nom, une entreprise bretonne spécialisé dans les matériaux de construction en Bretagne donc depuis 1948.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
Et pour parler de cette entreprise, eh bien, nous avons pris un peu de hauteur. Nous sommes ici au 4e étage à l'hippodrome de Longchamp, avec juste derrière nous les bâtiments majestueux de la Défense. Bonjour Clément Keguiner.
Bonjour.
Vous êtes le président du groupe éponyme, donc dont vous avez pris la tête en 2020. Alors parlez-nous d'abord de l'activité de ce groupe qui est basé donc depuis 75 ans, on le disait, en Bretagne et en Loire-Atlantique.
Alors le groupe Keguiner, donc c'est une entreprise effectivement basée en Bretagne et Loire-Atlantique. On a des activités de production, distribution et transport de matériaux de construction sur l'ensemble de la Bretagne. Et donc on a à peu près 1200 collaborateurs et on fait 320 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année précédente. Et donc c'est une activité où on vient produire principalement des activités donc de préfabrication béton et de menuiserie PVC. Et ensuite on distribue et on transporte l'ensemble des matériaux dont on a besoin pour la construction de manière générale.
Donc une ETI familiale créée par votre grand-père en 1948. Ça a rien à voir, j'imagine. Enfin, ça a à voir le cœur de l'activité, oui, mais que d'évolution, j'imagine, en trois quarts de siècle pour votre entreprise.
Bien sûr, non, c'est une vraie épopée, hein, cette aventure Keguiner. Moi, je suis très fier d'avoir pris la succession de mon papa. C'est une chance de pouvoir conserver justement les centres de décision sur le territoire. Et puis, ben voilà, c'est une entreprise éponyme, donc forcément de pouvoir continuer cette aventure pour le groupe qui a son nom de famille, c'est important.
Alors, quels sont les enjeux pour votre activité? J'imagine qu'entre les années de de votre grand-père, celle de votre père, beaucoup de choses ont évolué, notamment les enjeux environnementaux, c'est fondamental. Ici, lundi, la Première Ministre ainsi que Patrick Martin parlaient de croissance durable. Vous êtes aussi, vous, dans votre entreprise, au cœur de cette croissance durable?
Bien sûr. Alors nous, on est impacté au niveau de l'environnement sur l'ensemble de nos activités, que ce soit sur la production, puisqu'on produit principalement du béton. Donc on a aussi cette émission de CO2 qui est forte dans ces produits. On a la partie distribution auquel on achète énormément de matériaux qui, là aussi, sont consommateurs de carbone. Et enfin, le transport, évidemment, auquel on connaît aussi les impacts au niveau environnementaux. Donc c'est un enjeu qui est majeur pour nous de pouvoir réfléchir à tous ces enjeux d'environnement. Et en même temps, il ne faut pas qu'on s'arrête là, parce qu'évidemment que dans nos métiers d'industrie, la production nécessite justement d'avoir une réflexion sur comment on peut produire de manière plus propre. Et donc c'est vraiment l'enjeu de demain, de se dire comment vont être nos usines demain pour faire en sorte que justement ce côté environnemental soit plus vertueux pour nos productions.
Vous êtes une entreprise donc installée en Bretagne. Vous ne vous développez pas outre mesure vers d'autres départements ou vers d'autres pays?
Attaché à la Bretagne.
Et alors pourquoi? Parce qu'on se dit plus de développement, c'est plus de chiffres, etc. Pourquoi ne pas aller vers plus de développement au-delà de vos frontières naturelles?
On a cette histoire en Bretagne auquel on est très attaché, mais on pense aussi qu'on a encore la capacité à développer notre chiffre d'affaires sur ce territoire. On fait 320 millions sur effectivement un territoire assez restreint, mais en même temps il y a une vraie capacité encore à pouvoir se développer. Le bâtiment est une activité assez dense, assez forte, et en fonction des métiers, en fonction des activités, on pense qu'on a encore de bonnes parts de marché à les récupérer sur ce territoire.
Le développement, donc, il passe par un rachat qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est l'entreprise SMEG dans le Morbihan. Ça passe aussi par un nouveau site qui est en construction, qui sera prêt d'ici quelques mois, en Ille-et-Vilaine. Parlez-nous de ces deux projets en cours à l'occasion de ce 75e anniversaire.
Alors, ces deux projets sont un petit peu liés, puisque donc sur l'acquisition de la SMEG, c'est une société historique qui produit donc de la préfabrication béton et du béton prêt à l'emploi. Et sur ce département du Morbihan, on n'avait pas d'outils de production béton, et donc ça nous permet justement de densifier notre maillage sur ces produits industriels, et donc quelque part d'avoir aussi une capacité à fournir des produits béton sur ce territoire via notre canal de distribution. Et sur le cas de l'usine de Saint-Malo-Grand, donc en Ille-et-Vilaine, là aussi on n'avait pas une capacité propre importante en termes de parpaing et donc de blocs béton, et donc on vient apporter cette nouvelle usine qui a aussi une innovation, puisque dans cette usine on va apporter une mousse béton qui est intégrée dans les parpaings, et donc ça a une certaine propriété thermique, phonique, qui là aussi va apporter au-delà du bloc traditionnel une innovation sur le territoire.
Dans les deux cas, quels vont être les impacts sur l'emploi de votre groupe?
Alors, l'ensemble additionné, c'est à peu près une cinquantaine d'emplois, puisque la SMEC, c'était 33 collaborateurs, et l'usine va apporter à peu près 20 emplois sur le territoire.
L'emploi, la formation, ça compte. Je crois que vous avez même développé un centre de formation en interne. Ça veut dire que vous avez, comme tant d'autres entreprises, des difficultés de recrutement et de recruter les bonnes personnes pour les bons postes?
Bien sûr, dans le centre de formation, c'est plus de 15 ans d'existence au sein de l'entreprise, et c'est un vrai vivier pour nous, puisqu'on voit effectivement les difficultés d'emploi sur le territoire, de recrutement, et de pouvoir former à l'externe, puisqu'on recrute à l'externe pour des formations de magasiniers et vendeurs, mais aussi en interne, des commerciaux routes, des chefs d'agence qui sont aussi formés, donc il y a des évolutions internes. C'est une vraie chance pour nous pour justement être attractif, apporter justement des nouvelles compétences aux entreprises, mais aussi faire évoluer les collaborateurs. Et donc ce centre de formation est essentiel pour nous aujourd'hui.
Est-ce que l'industrie est sexy? Il y a quelques années, les jeunes ne voulaient pas du tout travailler dans l'industrie. Est-ce que vous, mais comme tous les industriels en France, vous avez su rendre ces métiers attractifs un peu sexy?
Alors je pense effectivement, oui, il y a peut-être une image de l'industrie qui a été assez négative pendant quelques années. Je pense qu'on est par contre sur un virage qui est un peu différent, à faire en sorte justement de mettre en valeur ces métiers industriels qui sont justement le cœur des activités, puisque quelque part pour aujourd'hui travailler, il faut à un moment donné de l'industrie, il faut créer aussi de la production. Et je crois justement dans cette vision un peu environnementale que l'on connaît, dans ces enjeux de société que l'on a aujourd'hui, l'industrie va vraiment prendre le pas et va avoir aussi une image un peu plus intéressante. Et donc c'est aussi là-dessus qu'on travaille, puisqu'il faut repenser l'industrie aujourd'hui avec une production peut-être de manière différente. Et donc dans ce côté enjeu de société, apporter de la production innovante et avec des enjeux environnementaux importants, je pense que c'est ça qui va apporter un côté plus attractif dans nos métiers.
On parle beaucoup, on en parle entre autres dans cette émission, des enjeux de réindustrialisation de la France après des années de désindustrialisation. Est-ce que vous croyez qu'on y est parvenu? Il y a eu comme un palier légère hausse depuis quelques années. Est-ce que ça va stagner à ce palier selon vous, ou est-ce qu'on peut aller bien plus haut dans notre pays?
Alors je pense qu'on peut aller bien plus haut. En tout cas, cas, nous, on a ces ambitions-là sur le territoire breton de pouvoir continuer à industrialiser le territoire. Il faudra le faire, par contre, avec une logique d'innovation. Je pense que pouvoir aujourd'hui industrialiser comme on l'a fait précédemment, ça ne marchera pas. Je pense que la vision d'innovation de production sera importante. La vision de qualité de vie au travail aussi sera essentielle dans nos industries. Et donc, c'est pour ça que l'industrialisation de nos territoires, elle est possible. Et je pense qu'elle peut se développer. Mais malgré tout, il faudra la voir différemment pour faire en sorte, justement, qu'elle puisse se développer d'une manière plus vertueuse.
Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? On a eu beaucoup de patrons depuis ce lundi, donc à la REF sur notre antenne. Beaucoup ont parlé des impôts de production, ça vous concerne. Qu'est-ce que vous attendez ? Quelle stratégie vous attendez pour vous développer en Bretagne, mais ailleurs aussi ?
Je pense que effectivement l'impôt de production c'est un vrai sujet auquel qu'on évoque depuis longtemps et donc cette capacité à baisser cet impôt de production nous permettrait évidemment de pouvoir développer un peu plus nos industries. La capacité aussi du foncier, c'est un vrai sujet le foncier aussi pour nous sur l'industrialisation parce qu'il faut évidemment du foncier pour construire des usines. Et là quelque part c'est une dualité qu'il faudra que l'on trouve entre évidemment le gouvernement mais aussi les métropoles, les communes pour faire en sorte d'avoir du foncier tout en venant nous entreprises apporter aussi des vrais projets innovants sur le territoire. Comme je vous le disais, on ne pourra pas créer de l'industrie comme on le faisait précédemment et donc c'est à nous entreprises d'apporter des projets convaincants pour nos territoires mais en faire en sorte là aussi d'avoir ce foncier qui nous permette de nous développer. Et donc cet enjeu du foncier, notamment avec la loi littorale que l'on connaît aussi en Bretagne, c'est un vrai sujet et il faut qu'on puisse vraiment continuer à industrialiser mais le faire justement avec des projets qui sont propres et qui sont innovants.
Et en un mot, cette bonne dynamique entre l'État, les collectivités, les entreprises, vous la sentez continuer, vous pensez qu'on est sur de bons rails, vous savez souvent il y a du French bashing, il y a un certain pessimisme, est-ce que vous êtes vous du côté de ceux qui voient le verre à moitié plein ?
Moi je suis très optimiste toujours, j'ai un caractère optimiste donc je continuerai à l'être, donc je pense réellement qu'il y a des choses à faire et moi je jetterai pas la pierre en tout cas sur nos élus en local en Bretagne, au contraire je pense qu'ils ont une volonté justement de faire en sorte que le territoire continue à se développer. Maintenant encore une fois c'est à nous d'avoir des bons échanges pour faire en sorte, mais on voit qu'on peut industrialiser le territoire, on ouvre une usine à Saint-Malo-Grand, on a ouvert une usine de menuiserie à Landivisio il y a 3 ans, donc voilà on peut encore le faire, mais il faut le faire avec rigueur, avec volonté et puis aussi avec des échanges qui sont bons pour que ça fonctionne.
On aime ce type de message. Merci beaucoup Clément Keguiner d'avoir été donc invité de la France à tout pour réussir qui lançait sa 8e saison donc comme chaque année ici à l'hippodrome de Longchamp à la REF. La semaine prochaine, retour dans notre studio à Paris et pour ceux qui aiment les chiffres symboliques, ce sera la 333e émission, voilà je m'y perds, 333 de la France à tout pour réussir. Je vous souhaite un bon week-end, une belle journée et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.